Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, alors qu'on est à quelques jours et à quelques semaines du Père Noël, donc on va gâter encore plus nos auditeurs ce soir, hein, comme chaque lundi depuis donc un peu plus de 2 ans et demi, hein. On est ravis en tout cas aujourd'hui de parler de tout plein de choses. On va commencer par le golf avec notre invité, donc Pascal Gorge, donc responsable de la com de Paris 13 Golf, et oui, on en reparlera donc en première partie de cette émission. Comme notre radio est parisienne, mais aussi qu'elle déborde de son cadre, eh bien on parlera de patinage avec Vanessa qui nous fera un petit retour sur ce qui s'est passé la semaine dernière, la finale du Grand Prix ISU à Grenoble. On finira aussi avec Paris 2024, hein, c'était l'ADER jeudi à l'occasion du dernier conseil d'administration, donc on en reparlera. Et puis on fera un journal des sports avec Alexandre, et puis aussi naturellement un abondant point foot avant de retrouver au bout du foot, et ce pour la dernière de l'année 2024. Alors je vais saluer donc ceux et celles qui vont m'accompagner. Bonsoir Vanessa, ça va?
Très bien.
Tu vas nous emmener faire du... un peu de patin ce soir.
Exactement, on est à la finale du Grand Prix.
C'est Noël bientôt, hein. Voilà, donc très bien. Alexandre, bonsoir.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Ça va? T'as
ça
pas
va,
trop
super.
La gueule de bois, nos bleus d'urne, malheureusement, ont terminé quatrième.
Malheureusement, hein, mais ouais. On en parlera tout à l'heure.
Ouais, voilà, c'est ça, toi qui t'occupes du journal des sports. Et puis je l'ai dit, notre invité, Pascal Gorge, on parle de tous les sports. Bonsoir Pascal,
bonsoir,
on va parler
Philippe.
Golf, parce qu'on peut faire du golf, même en habitant tout près d'ici. On peut pratiquer ce sport tout près d'ici.
On peut pratiquer le golf au stade Carpentier, au plein cœur du 13e.
Oui, je crois que c'est le seul club parisien.
Alors, ce n'est pas le seul club parisien, mais c'est la seule installation de practice outdoor dans Paris intramuros.
Oui. Parce que si on veut jouer au golf en dehors, c'est Longchamp, c'est Auteuil, mais c'est des hippodromes.
En première périphérie parisienne, oui, essentiellement.
Oui, très bien. Alors, qu'est-ce qui vous a attiré dans le golf depuis combien de temps?
Oh, moi, je joue depuis une vingtaine d'années.
Ah oui.
Ça a commencé comme ça commence pour beaucoup de gens, des copains qui jouent et qui disent « Tiens, bah, viens découvrir ». Et puis, petit à petit, je me suis pris de passion pour ce sport-là.
Oui, c'est un sport de reconversion. Parce que ça a souvent été un sport de reconversion.
Plus maintenant.
Plus maintenant.
Non, c'est un sport tout âge. Nous, on a une école de golf.
Ouais,
on va pas tarder à ouvrir dans les projets une académie pour les enfants qui ont un niveau un peu plus élevé. Mais non, au sein de l'association, les 320-330 membres, on a toutes les tranches d'âge qui sont représentées.
Et vous avez toujours été un amoureux du sport?
Moi, j'ai toujours été un amoureux du sport en général, oui. J'ai fait pas mal de foot, j'ai fait du rugby. Bon, jeune, on touche un peu à tout. Et aujourd'hui, c'est golf et natation pour entretenir la forme.
Et qu'est-ce qui vous plaît dans le golf, dans votre quotidien de tous les jours? Vous sentez bien après une partie?
Bah, on se sent pas mal. Il y a une particularité. Alors, il y a une citation assez célèbre qui dit que le golf, c'est une jolie balade perturbée par une petite balle blanche.
Ah oui, c'est pas mal.
généralement, on est en pleine nature. Un parcours de golf, ça dure 4 heures, 4 heures et demie.
Ah oui.
On fait quand même 8-9 km à pied. C'est un bon exercice de concentration parce que ce sont des cycles de concentration courts. Un swing de golf, ça dure quelques secondes. Il faut se reconcentrer à chaque fois, gérer sa partie, gérer sa stratégie. On peut jouer en compétition comme on peut jouer en loisir. Donc, c'est avant tout une activité physique. Techniquement, on peut toujours progresser.
Oui, et il paraît que plus on joue, plus on a envie de jouer. Ça devient presque une drogue.
Oui, bah, mais j'ai envie de vous dire, comme tous les sports, vous faites 20 longueurs à la piscine, en bassin, vous allez avoir envie d'en faire 30. C'est l'envie de progresser, ce qui est une super chose aussi.
Pourquoi ce club, dans le 13e, c'est arrivé comment? Un petit peu.
C'est arrivé, cette année justement, on fête le 20e anniversaire.
Ah bah ça tombe bien.
Et c'était des gens, des passionnés de golf qui ont eu envie de fédérer entre eux, autour d'eux. Et donc aujourd'hui, alors précédemment ça s'appelait Team JPA pour jouer, progresser, s'amuser. Donc aujourd'hui c'est une structure associative, on est concessionnaire du practice qui est au stade Carpentier.
Oui, mais quand on décide de vouloir jouer, après il faut avoir le lieu pour jouer, ça n'a pas dû être facile et puis évident.
Non, mais c'est la beauté parfois aussi de la vie associative, c'est qu'il y a des gens qui s'investissent.
Oui, et on vous a construit un green, c'est ça ?
Alors, historiquement, c'était dans ces installations-là, il y avait un green.
Ah, déjà ?
Ouais.
D'accord. Okay.
Et la mairie de Paris nous a donné concession. Et aujourd'hui, c'est en partenariat avec les équipes du stade. Mais c'est aussi ça, la vie associative. Donc, les membres ne font pas que jouer au golf.
Oui, bien sûr.
Ils viennent tondre, passer un coup de peinture. L'année dernière, on a fait des travaux pour couvrir les tapis de practice qui restaient, qui n'étaient pas couverts. Donc, il y a toute cette vie associative aussi autour qui se développe.
Oui. Il fait combien de...
Oh, vous avez...
De surface
On a, pour être clair, on a 9 tapis.
Oui.
Où on tape des balles dans un filet, qui est situé à 15 mètres. On a un putting green qui est couvert et on a ce qu'on appelle une zone d'approche.
Oui.
Une autre façon de le dire, c'est qu'en permanence, on peut accueillir entre 25 et 30 personnes.
En même temps, quoi.
En même temps, on a des cours parce qu'on a maintenant 3 professeurs qui sont des professeurs diplômés et qui viennent et qui donnent des cours de golf là.
Oui. Donc c'est à Carpentier, au milieu des autres installations sportives.
Au milieu des autres actualités, en bonne entente avec les autres actualités sportives. Il y a certaines années même, on réalisait quelque chose qui s'appelait les journées de la balle.
Ah, c'est sympa. D'autres...
Qui était un espèce de tournoi de découverte des autres sports. En fait.
Ah, c'est sympa.
Chaque club montait une équipe et ça fait une espèce de mini-olympiade. Oui, c'était assez sympa.
Alors... Celles et ceux qui sont intéressés par ce sport, ils peuvent vous rejoindre encore, c'est possible ?
Alors, on fait énormément d'initiations.
Oui. J'ai lu qu'on peut taper comme ça à la porte, on rentre et
vous
puis
venez,
hop, c'est parti.
Le week-end, il y a toujours des membres qui sont de permanence pour vous accueillir. Vous venez, quelqu'un va s'occuper de vous, on va vous fournir le matériel. Vous avez juste besoin d'une paire de baskets et puis ça suffit largement.
Oui.
Le golf, c'est une activité, c'est un sport santé, parce que c'est une activité non traumatique, donc il n'y a pas de risque d'accident. Et je vous promets, d'ailleurs je vous invite à venir, en 10 minutes, tout le monde arrive à s'amuser.
Mais c'est vrai, vous avez, en offre, vous avez, si j'ai une bonne idée, c'est de venir, on viendra un jour.
Avec grand plaisir.
S'initier au printemps, là, dans les beaux jours. Là,
quand il va faire beau, on peut organiser un jeudi soir ou autre, un petit after work, et vous faire taper la balle, avec une petite boisson pour faire passer tout ça, avec grand plaisir.
Ah ouais, non, ça sera un
Voilà, donc les gens viennent à pied, et en 10 minutes, ils arrivent à taper des balles. Et après, s'ils ont envie d'aller plus loin, on leur propose l'adhésion à l'association et on leur propose de prendre des cours. Et puis, on a aussi des gens qui sont déjà golfeurs, qui viennent sur nos installations pour s'entraîner, parce que peut-être en fin de journée, ils peuvent venir taper des balles. Et puis, qui le week-end vont faire... On a des équipes sportives aussi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà de la vie associative, on est un club de golf au sens officiel de la Fédération française de golf, parce qu'on a un numéro d'agrément. Donc, on délivre des licences, on organise des compétitions.
Ouais, on en parlera.
Il y a tout ça,
Donc, à l'heure actuelle, vous êtes combien ?
On est 320-330 membres.
320, donc on l'a dit, on peut venir vous rejoindre, ça ne pose aucun problème. Ça coûte combien ?
Alors, ça coûte en moyenne une année avec... on vous prête le matériel, les cours et toutes ces choses-là. La première année, 400 euros et après 350.
Oui, donc effectivement, ça reste très abordable. On en parlait un petit peu hors antenne. Finalement, ce n'est pas plus cher que certaines disciplines sportives à l'année.
Vous devez avoir un bon panorama avec vos différents invités. Et je pense que ce n'est pas exagéré de dire qu'on est dans la fourchette de pas mal d'autres sports. Et sachant que si vous êtes golfeur confirmé et que vous voulez juste venir vous entraîner... C'est 130 euros de cotisation à l'année, sans les cours.
Voilà. Parce que beaucoup disaient que les entreprises favorisées faisaient des tarifs préférentiels pour aller jouer au golf. Il y a des grandes entreprises qui ont des fortes sections golf et ça permet donc à beaucoup, à travers leur entreprise, de pratiquer votre sport.
Oui, c'est une des grandes composantes de ce sport-là, où entre guillemets, il y a 3 familles. Il y a la famille des gens qui sont membres dans un club. Après, il y a ce qu'on appelle les associations sans terrain, dont on fait partie. Et il y a toute une autre composante, effectivement, qui est le golf entreprise.
Un peu comme
les associations d'entreprise.
C'est
un peu comme pas mal de sports.
Mm-hmm.
Il y a un championnat de France du golf d'entreprise.
Oui,
Donc, on accueille aussi, nous, des équipes de Natixis, BPCE, qui sont aussi dans l'arrondissement, et qui viennent s'entraîner des fois chez nous à l'heure du déjeuner pour participer à leur compétition.
Et les tarifs sont les mêmes ? Les cotisations, c'est les mêmes ?
Oui.
Et on est licencié à la Fédération française, parce que c'est un sport corporatif, quoi.
Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Oui, nous, tous les membres sont licenciés et ont un numéro de licence, et une licence FF Golf.
Alors, vous aviez dit que c'est plus un sport de reconversion. Donc, la tranche d'âge, elle va d'où à où dans votre club ?
Alors, on démarre, les plus petits, ils ont 8 ans.
8 ans, ça va.
Voilà, donc on a une école de golf à laquelle on tient beaucoup.
Et ça va, ils sont sages ?
Ils sont sages, oui, ils adorent. Du moment que... Alors, tout tient sur... Non, c'est le talent des pros, ça.
Ouais.
D'arriver à intéresser et à faire jouer les enfants. Et alors, je vais vous donner un scoop, c'est qu'ils y arrivent mieux que les adultes.
Ah bon ?
Oui, parce qu'ils ont une approche beaucoup plus ludique qu'une approche résultat, orientée résultat. Voilà. Et les enfants, ils s'amusent, ils tapent des balles et ça se passe très bien. Et voilà, et après, on a des membres qui ont plus de 90 ans, donc on a une fourchette large, et tout le monde trouve son compte, là.
Oui. Donc, finalement, il n'y a pas de profil type, il n'y a pas de...
Non, il n'y a pas, de profil type.
Oui. Qu'on fasse 50 kilos ou 90 kilos, ça pose pas de problème.
Aucune différence, non.
Oui. Alors, bon, quand on veut, par exemple, commencer à faire ce sport en loisir, après, on prend une licence, donc une cotisation chez vous, et après, on s'entraîne autant de fois qu'on veut, on prend des cours particuliers.
Alors, comme j'ai dit, on a des formules. Nous, on est assez cours collectif. Mmh. Voilà, donc un pro, c'est 6 personnes maximum sur un créneau d'une heure.
Oui, c'est sur une heure.
Parce qu'on veut que nos pros restent disponibles, donc on en a 3.
Mais
qui sont vraiment
payés par le club.
Alors ils sont techniquement ils sont prestataires.
Oui, parce que bon ils ont leur brevet comme tout.
Ils ont tous les diplômes qu'il faut avoir.
Ils sont prestataires donc payés.
Oui et on a le head pro David Blouet. Lui il est conseiller pédagogique pour un comité départemental.
Ouais d'accord.
On a une pro Melinda qui est une brésilienne qui était dans l'équipe olympique, enfin qui travaillait avec l'équipe olympique brésilienne.
Ah oui.
Non, on a des enseignants de super niveau et qui sont là aussi pour s'adapter à ce que chacun vient chercher. Voilà. Oui. En complément, on peut aussi prendre des cours individuels. Mais la formule de base chez nous, c'est en cours collectif.
D'accord. Et ensuite, si on veut faire de la compétition, ça se passe
comment ? Alors, ensuite, on travaille en partenariat avec les différents golfs de la région parisienne. On en a créé un, nous, il y a 3 ans, il y a des championnats réservés aux associations sans terrain. Voilà, donc on négocie des tarifs pour nos membres avec tout un tas de partenaires. Ça peut être des magasins de golf, mais surtout, évidemment, les parcours. On organise des sorties, parce qu'après, on bute sur le problème du covoiturage.
Oui. Parce qu'on va rappeler, c'est quand même facile d'accès. Hein, Carpentier, là, le tram juste devant.
Carpentier, tram, métro, bus, vélo, trottinette, tout ce que vous voulez.
C'est pour après, c'est pour se déplacer. Quoi.
Après, c'est pour aller sur les terrains. Et effectivement, nous, donc, on a des membres qui sont parisiens. Oui. Et c'est la plus grosse difficulté qu'on a. C'est que les gens nous disent, on veut sortir. Alors, je vous ai dit off tout à l'heure, à la différence de l'Angleterre, mais on fait des progrès. Il y a très peu de golfs en Île-de-France qui sont accessibles en transport en commun.
Ah oui,
il
y en a quelques-uns.
Il manque la logistique des 2 derniers kilomètres. Mais on va y arriver. On va y arriver. Bientôt, il y aura.
Il y a quelques golfs, je peux en témoigner.
La maison du golf à Saint-Quentin-en-Yvelines, le golf national, sera accessible en transport en commun. Et ça va justement permettre d'emmener beaucoup plus facilement les gens.
Oui, bien sûr. Donc, sur quel golf vous allez principalement ? La Seine-et-Marne ?
On va partout.
Les Yvelines, l'Essonne, j'en connais certains.
On va un peu partout. Oui,
ouais, partout.
On va dans toute l'Île-de-France.
Oui. Vous avez un préféré ?
Celui que je vais jouer la prochaine fois.
Ah, c'est pas mal ça, comme réponse.
Ouais. Non, on a une chance effectivement en Île-de-France, c'est qu'il y a une diversité de parcours.
Ouais. Parce qu'il doit y avoir quand même chaque golf où on doit un petit peu s'adapter, non ?
Puis en fonction des conditions météorologiques, on ne le jouera pas de la même fois à chaque fois, en fonction de son état de forme. Et on peut faire d'ailleurs ce qu'on appelle, c'est un sport où il y a pas mal de variétés, parce qu'on peut faire ce qu'on appelle des parcours thématiques. C'est-à-dire qu'on joue avec, on se dit je ne prends pas tel club, ou je ne prends pas, voilà. Donc on peut se donner des contraintes. Et on arrive à s'amuser assez rapidement.
Bon, Vanessa, Alexandre,
on
vous
va
êtes prêts à aller essayer ?
On est prêts.
Ouais.
Hein. Alors moi je suis prêt, ouais. Et je rajouterais que j'ai jamais fait de golf de ma vie,
oui, bah.
Et que à chaque fois, parce que je suis d'origine guadeloupéenne, et à chaque fois que je vais en Guadeloupe et que je passe devant le golf de Saint-François,
il y a des beaux golfs,
à chaque fois
il est
je
super
veux
ce golf.
Ah ouais, il est incroyable. Bon, il y a
il
des problèmes
superbe.
Avec la mairie,
oui, oui.
Mais j'ai envie d'y aller, j'ai envie de tester.
Bah, venez, je vous fais deux promesses. La première, c'est qu'on vous accueillera dans la joie et la bonne humeur. Et la deuxième, c'est qu'en 10 minutes, vous arriverez à taper des balles et à vous amuser. Voilà.
On
c'est
va venir,
le plus important au départ.
Alors, c'est vrai qu'Alexandre parlait des golfs. Il y en a partout, partout, partout. Même, on peut même faire un voyage touristique sous le thème du golf. Il y en a, c'est proposé comme ça. Hein. Qu'on aille en Guadeloupe, à l'île Maurice, voilà.
On a déjà organisé, Mélinda, la pro dont je parlais tout à l'heure, a proposé d'organiser un voyage au Brésil.
Oui, ça m'étonne pas.
Sans aller jouer le parcours olympique à Rio.
Ah oui, en plus.
On propose aux membres, on a fait Marrakech, on a fait l'Espagne. Mm-hmm. Oui, on peut voyager avec ses clubs de golf.
Ouais. Ouais. Alors, en combien de temps on arrive à devenir un bon golfeur ou une bonne golfeuse? À un niveau respectable, on peut s'amuser à se faire plaisir.
Oh, je dirais, en fait, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est d'arriver à faire avancer la balle. Okay.
Ouais, ouais.
Deuxième étape, il y a un petit diplôme qui s'appelle la carte verte. C'est en fait connaître les règles principales et bien se comporter. Enfin, la conduite à tenir sur un parcours, l'objectif étant de ne pas créer des embouteillages puisque les parties se suivent. Au bout de quelques mois, je dirais une dizaine d'heures de cours, vous devenez autonome et vous pouvez aller sur un parcours.
D'accord.
Voilà.
Et vous en avez beaucoup qui laissent tomber en cours de route, non? Pas trop.
Non, pas trop.
Pas trop, ouais. Puis c'est à vous un peu aussi de les motiver.
Oui, alors, nous, on les motive.
Leur dit, vas-y, continue.
Après, nous, la particularité, effectivement, du practice intramuros, c'est qu'on a des gens qui viennent aussi pour avoir une vie sociale.
Oui, ben c'est important.
Qui considèrent ça, effectivement, aussi comme une activité sportive d'entretien.
Non, bien sûr que c'est important.
Et qui aiment bien changer d'activité régulièrement. Les gens déménagent, voilà. Donc, en termes de vie associative, on a tous les ans des nouveaux membres, parce qu'il y a des membres qui arrêtent ou qui partent ou qui déménagent, voilà.
Et tous des Parisiens, des Parisiennes, ou ça vient d'un peu plus loin, c'est-à-dire qu'ils peuvent venir de la périphérie?
Non, non,
même,
non. On a des gens qui viennent de périphérie parisienne.
Ah oui, c'est bien.
Oui, oui.
Ouais, non, mais c'est... Ouais, ouais. Et donc, on l'a dit, vous avez la particularité d'être le seul golf...
outdoor.
Outdoor. Donc, ça veut dire qu'il y a des améliorations qui sont prévues dans les prochains mois, les prochaines semaines?
Alors, il y en a plein, il y en a toujours.
Oui, oui,
et
oui.
On a régulièrement déposé des dossiers en liaison avec la mairie dans le cadre du budget participatif.
Ouais. Mmh.
Donc, une partie des choses qui ont été réalisées sur les installations de Carpentier l'ont été dans le cadre du budget participatif. Là, la prochaine étape pour nous, c'est ce qu'on appelle le clubhouse ou le bâtiment du club.
C'est important. Ouais.
Surtout pour pouvoir mettre les gamins à l'abri l'hiver, pour que les pros... puissent avoir utilisé les nouvelles technologies en termes d'enseignement. Voilà, pour nous, ce sera la prochaine grosse étape. Les choses avancent. On a un projet sur lequel on travaille.
Et il y a suffisamment de place?
Oui.
Un Carpentier,
oui.
Toutes ces multitudes d'activités sportives.
On a un président qui pousse un projet aussi sur lequel on discute avec les représentants des pouvoirs publics, qui est sur la petite ceinture.
D'accord.
Peut-être qu'il y a un tronçon où pourrait y avoir la place d'installer un practice de golf. Voilà, on regarde tout ce genre de choses parce que il nous arrive quand même de temps en temps de refuser du monde parce qu'en plus de tous nos membres, on reçoit les jeunes de la mission locale.
Oui,
on travaille avec les scolaires.
Oui.
On essaye de faire pas mal de choses. Là, on a un projet qui permettrait de faire passer dans l'année 22 classes parce que pour les petits, en termes de motricité, c'est intéressant.
Ouais, c'est hyper important.
Voilà, donc aujourd'hui, si on pouvait avoir plus de place, on prendrait plus de monde. Mmh. Voilà, donc par moment, il faut aussi rester conscient de ses moyens et savoir se limiter pour accueillir tout le monde correctement, parce que ça reste le plus important pour nous.
Ouais. Et les écoles, ça leur plaît quand elles viennent? Ils sont très réceptifs,
les étudiants. Ils sont à un âge... Alors, en termes de scolaire, on a eu des étudiants, parce qu'on a eu, la fac. Mais là, je parle plus particulièrement
des scolaires,
CE1, CE2. Ouais. Ils viennent, ils font une activité de plein air, ils découvrent quelque chose. Donc,
Est-ce que certains sont revenus après?
Oui, quelques-uns.
Ah, bien.
Ouais. Quelques-uns, oui, qui sont inscrits à l'école de golf. Ouais.
Et donc, il y a le prix, mais après, vous l'avez dit, vous prêtez le matériel. Mais après, je suppose que quand on veut aller plus loin, il faut acheter son propre matériel.
Oui.
Vous avez pris la licence, mais ça vient se rajouter, ça.
Oui, mais vous avez une grande enseigne française spécialiste de la grande distribution du sport, vous voyez, en bleu, là, pour ne pas les nommer.
Qui a œuvré pour les Jeux aussi.
Qui a un département golf.
Oui, bien sûr.
Et aujourd'hui, vous pouvez trouver pour autour de 150 euros, je dirais, un sac avec les clubs qui vont bien.
D'accord. Et oui, parce que bon, pour les non-initiés, on va le rappeler quand même que les clubs, ça expliquer ce que c'est, à quoi ça sert.
Ah bah les clubs
servent. C'est en fonction de la météo, du parcours.
Non, pas du tout.
Du type de terrain.
Sur un parcours, on a le droit dans un sac, on a le droit à 14 clubs.
Voilà.
Et en fait, les clubs sont fabriqués. Alors, on a des clubs pour envoyer la balle très loin.
Voilà.
Où c'est plutôt un tir tendu si on fait de la balistique. Et puis il y a des clubs plus ouverts qu'on appelle des wedges, alors il y a plein d'anglicismes, mais qui servent à faire des balles plus en cloche pour des petites durées. Et puis on a un club particulier qui est le putter, alors ça ressemble à ce que vous utilisez au mini-golf. C'est à la fin sur le green pour faire rouler la balle dans le trou. Voilà.
Et cet équipement, il dure longtemps? On peut l'utiliser pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans?
Un set de club, vous pouvez le garder pendant entre 5 et 10 ans. Oui.
Et ce n'est pas adapté à la taille?
Alors après, vous avez des options de personnalisation en fonction de la taille.
Parce que quand on est jeune, tout petit, qu'on fait ça, qu'on fait du golf, je suppose qu'après, donc...
Alors c'est vrai que
si on continue pendant 10 ans, on doit probablement changer de matériel. Quoi.
C'est pour ça que nous, le club, et pas forcément en récupération, mais en investissement, pour éviter que ce soit une charge trop importante pour les parents, parce qu'effectivement, c'est comme tous les sports, la paire de crampons de foot, mon fils est passé par là, il faut les changer tous les 6 mois. Et donc là, nous, en fait, on prête l'équipement pour les enfants.
D'accord.
Voilà, donc jusqu'à ce que la taille soit stabilisée. Alors, si les parents veulent acheter les clubs de leurs enfants, il n'y a pas de problème. Mais nous, le club met à disposition pour les enfants. Donc, on a toutes les tailles.
Et pour la personne adulte, bon, bah, il faut avoir son matériel. Et sa paire de chaussures, voilà, c'est tout.
Oui.
Le reste, on peut avoir un jean,
Il y a un petit truc en plus, pour un clin d'œil sur les dépenses. Ce sont les balles, parce qu'on a un peu tendance à les perdre.
Alors, j'allais le dire aussi. Oui. Est-ce que le pratiquant doit avoir ses balles?
Ah oui, quand même.
Comme le tennis, quoi.
Oui.
Ouais.
Bah c'est mieux, ça responsabilise les gens parce que si c'était les balles du club, là, il y aurait plein de.
Ah ben on les revoit pas.
C'est sûr.
Ouais, ça vous arrive beaucoup, ils vont où? Sur les terrains de rugby, de foot?
Excusez-moi, je me suis mal exprimé. À Carpentier, on tape avec ce qu'on appelle des balles de practice qui sont mises à disposition par le club. Et en fait, c'est quand on va sur un parcours, là, on prend des vraies balles de golf qui sont un peu plus performantes. Et là, chacun d'avoir ses balles quand même.
Est-ce que le matériel a beaucoup évolué?
Oui, et continue d'évoluer, oui.
Et ça apporte quoi?
Alors, ça apporte, c'est toujours un mix entre précision et puissance. Donc, quand vous regardez, alors c'est comme dans tous les sports, les promesses marketing des fabricants de matériel, mais quand même, on fait du matériel maintenant qui est beaucoup plus tolérant. Et vous pouvez, par exemple, ce qu'on appelle un shaft, c'est-à-dire le manche du club de golf, existe en différents degrés de rigidité. Donc, en fonction de votre pratique, si vous êtes jeune costaud et que vous tapez très fort, vous pouvez prendre un manche.
Ah oui, avec le poids, ça joue quand même.
Vous pouvez prendre un manche rigide.
Ouais.
Et puis, si vous jouez plus en souplesse, il y a des choses plus adaptées. Voilà. Mais il y a une offre qui est assez large et chacun peut trouver son bonheur.
Alors, il y a aussi les compétitions, vous l'avez dit, on peut franchir le pas. Est-ce que les résultats sont bons chez vous?
Ils ne sont pas mauvais.
Oui, c'est bien.
Ils sont pas mauvais. Là, il y a une compétition, un championnat qui s'appelait la Buzz Cup, là, qui a duré tout l'été. On a fini deuxième au niveau national. C'est pas parce qu'on est une association sans terrain. Alors, les gens qui nous écoutent, qui connaissent un peu le golf, on a quand même quelques joueurs avec un index à un chiffre, c'est-à-dire des très bons joueurs.
Il y a un classement type tennis au golf.
Exactement.
Hein.
Ouais. Ça va de 54 à 0.
Alors, expliquez ce que c'est, c'est-à-dire, c'est les coups qu'on joue, simplement,
pour
faire le parcours.
Quand on est sur un trou de golf, il y a ce qu'on appelle le par. C'est-à-dire, le par, c'est le score idéal, qui dépend essentiellement de la longueur du trou. Donc, il y a des par 3, des par 4 et des par 5. et vous faites le parcours. Et donc, si sur un par 4, vous faites 5, bah, ça fait plus 1. Ouais. Et à la fin des 18 trous, vous comptez le nombre de coups en plus du score idéal. Voilà. Et ça vous donne votre niveau. Mmh. Et quand vous jouez en compétition, bah, on rentre ces scores-là. Voilà, parce que son score officiel, on ne le fait progresser qu'en faisant des compétitions, sur 9 ou sur 18 trous maintenant. Et derrière, bah, c'est la fédération qui calcule tout ça. Et donc,
c'est un calcul annuel, non
non, c'est mis à...
au jour le jour. Quoi.
Non, c'est mis à jour en permanence. Et vous faites une compétition le dimanche soir, d'accord, vous avez votre nouveau classement.
D'accord. Et le par, c'est des probabilités ou c'est fait par rapport à ce que des anciens champions ont fait?
C'est fait par rapport à l'histoire du sport, effectivement, okay, comme ça. Mais un par 3, c'est un trou qui va faire entre 100 et 150 mètres. Et en fait, votre question est intéressante parce qu'en fait, le par, il est toujours calculé de deux choses. Le point commun de tous ces trous, c'est le green, là où on fait rouler la balle. Là, on compte toujours deux coups dans le score idéal. Et après, la différence entre par 3, par 4, par 5, c'est donc 1, 2 ou 3 coups en plus. Et ça dépend de la distance du trou. Un par 5 peut faire jusqu'à plus de 400 mètres. Et ce qui veut dire que du départ jusqu'au green, vous avez 3 coups pour envoyer la balle là-bas idéalement.
Oui. Donc, compétition que par équipe ou individuelle?
Les deux.
Les deux, vous n'êtes pas spécialisé, quoi.
Non, alors y a, l'avantage du golf, c'est qu'il y a plein de formules de jeu différentes. Mmh. Alors, on peut jouer en individuel, on peut jouer par équipe au sens binôme ou trinôme dans la même partie.
D'accord.
Et puis, on peut avoir des compétitions où chaque club a 5 ou 6 représentants qui font leur score individuel et qui comptera pour la gestion de leur index, justement. Mais on additionne les scores de tous les équipiers pour avoir un score équipe.
Vous avez jamais eu quelqu'un qui est devenu golfeur de haut niveau, je vais y arriver, de haut niveau au club?
Au club, non.
Non, jamais encore, ouais. Bon, justement, ça vous a plu, les jeux au niveau du golf, les compétitions, 51, on sait que c'est prodigieux comme site, hein.
Bah, on a un stade.
D'avoir un tel outil, c'est merveilleux. Quoi.
Ouais. Oui, c'est, moi, je n'appelle pas ça un parcours, c'est un vrai stade de golf, la configuration à Saint-Quentin. Mm-hmm. Il y avait eu la Ryder Cup, donc ça, c'était dans
2018,
un état phénoménal. Je n'ai plus les chiffres exacts en tête, mais ça a drainé quand même énormément de monde. On aurait aimé que les Français brillent un peu plus. Mais
notamment
voilà.
Céline Boutier. Hein.
Oui. Hein,
entre autres.
Elle a peut-être été un peu paralysée par l'événement,
mais
c'est une super championne. Donc, mais ça donne une bonne visibilité. Il y a énormément de gens qui sont venus découvrir peut-être ce sport qu'ils ne connaissaient pas. Bah, s'ils habitent dans le coin, venez nous voir chez PG13.
Ouais. Et vous aviez des modèles dans le golf?
Ah,
un joueur ou une joueuse qui fait fasciner, qui fait rêver, qui est un exemple, un modèle.
Alors, ça va faire un raccourci simple, mais...
Tiger Woods,
oui, alors moi, j'ai pas la même année, mais j'ai la même date de naissance que lui. Donc, ça m'a toujours amusé. Mais oui, c'est quelqu'un qui a quand même révolutionné ce sport. Et après, on le voit, si vous prenez Rory McIlroy, on retrouve des vidéos de lui où il est passé dans une émission tout petit, où chez sa maman, il s'amusait à taper des balles et il visait le lave-linge. Donc, il faisait rentrer les balles dans le lave-linge. Donc, il était mordu déjà à l'époque. Après, c'est comme tous les sports, pour devenir professionnel, voilà, ça demande du temps, de l'entraînement, et ça devient un métier en soi. Donc non, on a des très bons joueurs amateurs au club, mais on n'a pas de gens qui sont
encore,
devenus...
C'est pas arrivé, quoi.
Ah, peut-être les petits champions de demain, dont David le pro s'occupe. Voilà. Mais c'est vrai que ça, j'insiste là-dessus, mais c'est vrai que c'est Bruno, autre membre du bureau que vous avez déjà accueilli.
Dans une de nos premières émissions.
Et ça, l'école de golf, c'est son truc.
Ouais, c'est bien.
Et c'est mettre du temps au service des enfants, trouver des moyens.
C'est lui qui était volontaire au jeu, non?
Ouais, il était volontaire au jeu, en plus.
Ouais,
on en a eu quelques-uns dans l'association qui ont été volontaires au jeu.
Alors justement, les Jeux Olympiques, vous les avez suivis comment, vous?
Alors,
vous êtes,
pas
vous
mal
avez
à la...
la chance d'aller sur des sites, sur le golf notamment, non.
Le golf, j'y suis passé, je suis allé voir, j'ai été époustouflé par l'équitation au château de Versailles, et puis je suis allé voir des épreuves d'athlétisme aux Paralympiques, Stade de France, impressionnant.
Bon, comment vous avez trouvé ce jeu? Comme tout le monde, vous avez été emballé.
Ah, phénoménal.
Le scepticisme qu'il y avait avant, c'est fou d'ailleurs.
Ah bah c'est très français, mais c'est tout le monde critique avant, mais c'est une fois qu'on est au pied du mur et dans l'événement qu'on est capable de se retrousser les manches et de délivrer des choses phénoménales.
Ouais. Succès sportif, populaire, environnemental et puis financier, hein, puisque ça a été donc dévoilé jeudi.
C'était oui, le j'ai cru comprendre qu'il restait un petit peu d'argent. Ouais.
D'administration. Alors justement, il y a un peu plus de 26 millions d'euros. Ouais. De bénéfices. Alors, il y aura 20% qui iront au CIO, 20% au CNOSF, et puis le reste, bah, on va en discuter début janvier pour savoir ce qu'on en fait, comment on le répartit, si vous aviez un souhait.
Le sport amateur,
oui,
la vie associative. Ouais,
voilà. Mais alors après, quelle répartition?
Ah bah, je veux bien qu'on s'inscrive sur
le...
Je veux bien...
parce que
oui,
c'est important
que j'allais dire.
Pour vous.
Le sport handicap, je voudrais bien qu'on s'inscrive sur la liste, mais elle risque d'être longue. Et puis oui, non, je... était assez effectivement impressionné par ces Jeux paralympiques.
Oui.
Et je pense qu'il y a eu une prise de conscience et qu'il faut, donner des moyens, il faut faire découvrir. Parce que moi, le message que j'ai compris, c'est qu'il y avait plein de gens qui étaient en situation de handicap qui n'osaient pas aller dans des clubs sportifs.
Oui,
et, puis fait, et puis de l'autre côté, il faut,
pouvoir les
recevoir. Nous, je sais qu'on a travaillé avec des personnes en situation de handicap. Je parlais tout à l'heure des pros. Y a des formations spécifiques pour les pros de golf pour accueillir les personnes en situation de handicap. Et c'est bien que tout le monde puisse pratiquer un sport qui lui plaît sans barrière et sans limite. Donc oui, s'il y a moyen de développer cette pratique-là. Mais voilà, après moi, je ne suis pas décisionnaire.
Ouais. Et le budget, il était de 4,4 milliards, hein, le budget donc, finalement des Jeux. Et en plus, pour être très très complet, on a même fait pour l'empreinte carbone une réduction de 54,6% par rapport aux Jeux de Londres et de Rio. Donc c'est dire quand même. Hein.
C'est un sujet qui est hyper important. Ouais. Et le golf qui souffre de... Enfin, qui a longtemps été critiqué, fait énormément d'efforts là-dessus. Il y a des labels de biodiversité.
Oui, vous aussi, ouais.
Il y a certains golfs qui sont arrosés maintenant avec les eaux de retraitement des eaux de retraités. Voilà. Donc ça aussi, c'est une considération qui est prise et que je sais qui est chère au cœur du président de la FF Golf. Ouais. Ouais.
Très bien. Alors, on va écouter, on y était, hein, dernière conférence donc, de presse pour Tony Estanguet et tous ceux qui l'ont accompagné dans cette belle aventure. On va écouter les impressions du président du CNOSF, qui est aussi président de l'UCI, David Lapartient. Et lui aussi, il est comme tout le monde, ravi en tout cas de cette belle fête qu'il y a eu donc, cet été sur Paris. David Lapartient.
Pour Paris 2024.
Le bilan est formidable, il est formidable au niveau organisationnel. La France a organisé magnifiquement ses Jeux. Il est formidable au niveau populaire. Plus de 12 millions de spectateurs. Jamais des Jeux n'avaient attiré autant de monde. Il est formidable, bien sûr, au niveau des performances. Les Français ont performé. Cinquième au tableau des médailles. 16 médailles d'or, 64 médailles en tout. Il est formidable au niveau des respects des prises en compte des enjeux environnementaux, moins 54,6% d'émissions par rapport à la moyenne des Jeux précédents. Et puis, il est aussi formidable au niveau financier. Nous étions attendus, on nous décrivait des Jeux qui auraient été une catastrophe. Ces Jeux sont excédentaires, tant mieux et bravo à tout le monde.
Et cet argent va servir à quoi, David ?
Alors, il va servir notamment à développer des projets de sport partout en France, bien sûr en Île-de-France, mais aussi partout en France. Et nous nous retrouverons avec les acteurs, avec la ville de Paris, avec la région Île-de-France, les conseils départementaux, la métropole et le mouvement sportif et l'État pour décider comment nous utiliser ces fonds. Ce sera quelque chose qui sera discuté au premier trimestre 2025.
Mais l'héritage, il est formidable.
L'héritage, il est formidable. Et puis, formidable ces émotions qui restent en nous. De ces Jeux Olympiques. On a montré quand même notre génie français, notre capacité à organiser ces Jeux. Moi qui ai la chance d'aller partout dans le monde, partout, on me dit mais bravo, bravo la France, bravo Paris, vous avez donné des émotions au monde entier. Nous avons eu plus de 5 milliards de personnes qui ont été connectées avec les Jeux Olympiques. Jamais nous n'avions atteint de tels chiffres. 84% des habitants de la planète de plus de 4 ans on regardait les Jeux Olympiques.
David, j'ai une dernière question à vous poser. Tony Estanguet, tout le monde se pose effectivement la question, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire, etc. Il est exceptionnel, il peut tout faire, vous nous le confirmez.
Ah, Tony Estanguet peut tout faire, il est exceptionnel. Je trouve que c'était l'incarnation des Jeux Olympiques, c'était celui dont nous avions besoin pour les Jeux Olympiques.
Il va faire quoi ?
C'est à lui qu'il faut poser la question.
Merci beaucoup.
Merci.
Voilà, vous en pensez quoi ? Il a tout résumé, le président Lapartient.
Elle a tout résumé,
ouais,
oui.
Hein, c'est ça. Et puis pour Tony Estanguet, on va lui répondre parce qu'on a eu l'occasion de ensuite d'en savoir un peu plus en off avec lui. Il va déjà prendre 4 semaines de vacances, ce qui lui était plus arrivé depuis 10 ans.
Voilà, c'est bien
donc,
mérité,
fin janvier,
je pense.
Et après, donc, il pourra voir, il aura d'autres occasions, d'autres opportunités. Et il est prêt aussi à donner quelques conseils à Alpes 2030, hein, qui va prendre le relais. Il n'y a pas encore d'équipe au niveau de l'organisation. C'est en train de se discuter, même si ça semble qu'il y ait des petits problèmes vis-à-vis de certaines personnes. Mais en tout cas, bon, ils sont prêts à donner le savoir-faire. Et c'est ce que va dire donc, dans l'interview Tony Estanguet, qu'on va écouter, un des fidèles de mon Paris Sport, qui est souvent passé sur notre antenne. On l'écoute pour la dernière fois dans le cadre donc, de ses fonctions de président du comité olympique des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.
Une mission accomplie et qu'en plus la satisfaction d'avoir laissé de l'argent dans les caisses.
Ouais, c'est vrai que le bilan il est assez extraordinaire. Forcément, c'était la dernière grande inconnue. On avait à cœur depuis le début de cette aventure de montrer qu'il y avait cette responsabilité, que chaque euro investi dans l'organisation des Jeux devait être un euro financé, qu'il fallait trouver une voie de financement de ces Jeux en continuant à donner un maximum de valeur à ces Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Pour attirer des investisseurs, 84 entreprises commerciales ont investi massivement. On a dépassé nos objectifs en matière de revenus, de sponsoring de 150 millions d'euros. On a dépassé très très largement nos recettes également en termes de billetterie, ce qui a permis de faire face à une inflation particulièrement record ces dernières années et de garder l'équilibre budgétaire et de piloter au fur et à mesure l'évolution de Paris 2024 et investir cet argent avec effectivement aujourd'hui la bonne nouvelle, il y a aussi un excédent budgétaire qui va être investi pour le développement du sport en France et ça c'est une excellente nouvelle. Alors on a aujourd'hui un excédent de près de 27 millions d'euros qui va être investi dans les mois qui viennent puisque c'est de l'argent qui sera mobilisable à la fin du premier semestre 2025 lorsque Paris 2024 sera complètement terminé et dissous. Et donc c'est à ce moment-là que les membres fondateurs de cette organisation, c'est-à-dire l'État, la ville de Paris, mais aussi la région Île-de-France, le département de la Seine-Saint-Denis, la métropole du Grand Paris et surtout le mouvement sportif français, olympique et paralympique, vont pendant les 6 prochains mois décider de la meilleure utilisation de ces près de 27 millions d'euros et peut-être un petit peu plus.
Stéphane Roussel a dit qu'il aimerait bien en avoir 80%. Est-ce que c'est envisageable que ça aille aux collectivités hautes ? Et est-ce que c'est une volonté de développer le sport, de continuer à développer le sport dans ces collectivités ?
Encore une fois, il est trop tôt pour savoir comment cet argent va être utilisé. Aujourd'hui, l'objectif du conseil d'administration, c'était vraiment d'acter le bilan financier, de présenter en détail l'ensemble des revenus, des dépenses, des risques. Le comité d'audit aussi a fait une présentation assez détaillée de tous les travaux. Donc c'était vraiment première étape, on acte le sérieux budgétaire et le boni de l'organisation des Jeux. Deuxième étape, rendez-vous en début d'année avec l'ensemble de ses membres fondateurs pour décider de la meilleure utilisation possible. Moi j'ai confiance dans les acteurs en place aujourd'hui qui ont su ces dernières années prendre les bonnes décisions pour trouver les bons équilibres et faire en sorte que la vision de ces Jeux qui ont quand même été inclusifs, qui ont été autour de la parité, qui ont été autour de la durabilité du sport, ben que ces enjeux-là, ça perdure après 2024 et c'est près de 27 millions d'euros aujourd'hui, ben c'est un élan supplémentaire qui va être donné.
C'est important aussi de montrer que les Jeux Olympiques n'étaient pas forcément un gouffre financier et qu'à chaque fois, ben, on pouvait évidemment faire de l'argent et en tout cas de pas trop en perdre.
Ouais, on était très ambitieux au début de cette initiative de Paris 2024. C'était les Jeux du centenaire. La France avait rendez-vous avec son histoire. Elle a bataillé pendant des années pour l'obtention de ces Jeux et c'est vrai qu'on avait une responsabilité assez forte. Beaucoup d'attentes sur l'équilibre budgétaire de ces Jeux. On voyait bien qu'en termes d'acceptabilité des Jeux, c'était majeur de réussir ce pari et c'est pour ça qu'on a toujours mis une priorité absolue au pilotage budgétaire de Paris 2024. Quand on décide d'organiser une cérémonie d'ouverture sur la Seine ou place de la Concorde, on s'assure de regarder aussi à quel point ça peut être générateur de revenus. Et le bilan aujourd'hui des cérémonies, il est extrêmement positif. C'est-à-dire que ça a rapporté beaucoup plus d'argent que ce que ça n'a coûté. Et donc, ça valait la peine finalement d'investir dans une cérémonie d'ouverture un petit peu pour la première fois complètement inédite en dehors d'un stade.
Alors une dernière question, bon l'avenir, votre avenir, on ne sait pas encore de quoi il va être fait, je ne poserai pas la question de savoir ce que vous ferez dans les prochaines semaines. Malgré tout, est-ce que pour les Alpes françaises 2030, votre regard, votre expertise éventuellement donner cette expertise, regard aux futurs acteurs du COJO, le président
dont on connaît pas encore le nom. J'ai déjà commencé quand même à beaucoup interagir avec non seulement le projet Alpes 2030, mais aussi Los Angeles 2028 et voilà toute la famille olympique et paralympique. J'ai déjà eu beaucoup de présentations et d'échanges, de questions-réponses avec les fédérations internationales, avec les 206 délégations internationales. Je suis allé faire des présentations à droite et à gauche sur les dernières semaines pour partager justement un peu les enseignements, le bilan de Paris 2024. C'était dans la manière d'opérer, on a fonctionné quand même assez différemment avec des partenariats un peu inédits en matière d'opération et de livraison de l'organisation avec les fédérations internationales notamment. Donc c'était précieux de pouvoir capitaliser sur ce retour d'expérience. Et oui, moi j'ai demandé mandat aux équipes de Paris 2024 d'être dans la transmission de toutes ces infos. Je pense que c'est une bonne chose que les Jeux soient de retour en France dès 2030 avec les Jeux d'hiver. Je pense qu'il faut capitaliser sur le succès de Paris 2024. Bien sûr que ce sera différent, qu'il faudra que les équipes en charge trouvent la meilleure voie pour atterrir de la plus belle des manières avec 2030. Mais je pense qu'en tous les cas, ils ne vont pas partir d'une feuille blanche et ça, c'est plutôt une bonne chose.
Voilà Vanessa, ce qu'on peut dire sur donc Tony Estanguet. Hein, c'était la dernière interview, lui, qu'on a très très souvent eu donc à notre micro. Dernière interview pour Paris dans le cadre de ses fonctions de président du comité du COJO, comité d'organisation de Paris 2024 olympique et paralympique.
Et qu'on a rencontré aussi pendant les Jeux plusieurs fois.
C'est bien ce lien avec 2030.
Et tout à fait, oui. Philippe, et je pense que l'expérience de ces Jeux Olympiques, elle va servir, même si faut quand même bien noter que c'est différent parce que c'est des Jeux Olympiques d'hiver, parce que l'engouement est aussi un peu différent, mais en tous les cas, c'est des pistes qui sont très intéressantes, cette réussite avec tout ce qui a été fait, c'est des bonnes pistes à tirer pour 2030, mais encore une fois, ce sera aussi un petit peu différent.
Oui. Pascal, ce que vient de dire... président Estanguet.
Le président Estanguet. Il dit des choses, effectivement. Lui, je crois que ça, j'ai bien compris, sa mission s'arrête. Il s'inscrit dans la transmission. J'aime bien la fin de l'interview où il dit effectivement qu'il a demandé aux équipes de transmettre. Et puis, il rappelle deux notions importantes pour l'affectation des sommes, durabilité et inclusion. Mm-hmm. Et voilà, je trouve ça très bien que ça aille dans cette direction-là.
Très bien. Interview faite avec, comme on le fait partout, avec l'ensemble de nos confrères des radios et des télés. La pause musicale, et justement, après, on va parler d'une discipline d'hiver. On va aller patiner. Après avoir été golfé, on va aller patiner avec Vanessa. La musique avant.
Cette fille
Voilà, alors comme promis, on va revenir sur ce, sur ce dont on avait parlé la semaine dernière, Vanessa, Grenoble.
La finale du Grand Prix de patinage artistique, donc il y a celui qui s'est déroulé à Grenoble du 5 au 8 décembre. Et on y était, on va écouter les réactions de Kevin Emoz, le Français qui a terminé 6e au terme de la compétition. Et ses réactions après le programme LIMP tout de suite.
Que j'étais présent pour eux, quand j'ai raté les premiers à qui j'ai pensé que c'était les petits du club, en me disant « Oh purée, je leur fais... » J'ai pas envie de leur faire honte, je veux leur montrer qu'à Grenoble on se tient droit et on est fort. Du coup aujourd'hui j'avais qu'une envie, c'était de remonter sur glace et performer.
Il y a eu, on a senti beaucoup de plaisir quand même.
C'était dur, mais j'ai pris du plaisir à patiner à la fin. J'étais très concentré, j'avais besoin d'être concentré au maximum pour réussir. Donc là je suis très fier, pas mon plus beau score, peut-être pas mon plus beau patinage, mais il venait du cœur. Donc quand ça vient du cœur, c'est le plus beau.
Ici en plus à Grenoble, devant ce public qui t'a encouragé hier, aujourd'hui, t'avais à cœur de performer quand même.
Ouais, c'est un truc de ma boule, la patinoire elle tremblait sur place, enfin sur la glace, je sentais les vibrations des gradins et tout, c'est un truc de taré, je peux pas expliquer comment c'est bon de faire ce genre de performance devant son propre public dans sa patinoire où on s'entraîne tous les jours, c'est le haut du panier mondial là, on est vraiment sur un niveau de taré sur glace, donc je suis trop fier.
C'est quelque chose qui va rester cette soirée.
Ouais, elle va rester dans mon cœur pour toujours, de m'être relevé après un échec. J'ai encore montré que je pouvais me battre et tout. Et ça, c'est beaucoup d'expérience pour moi. Toutes les compètes de cette saison m'ont apporté beaucoup de leçons. Et maintenant, je vais surfer sur ça, retourner à l'entraînement, bosser dur pour les championnats de France. Et ensuite, aller préparer les championnats d'Europe. Et en fin de saison, préparer les championnats du monde. On va chercher les quotas olympiques pour les Jeux de Milan.
Qu'est-ce que tu retiens justement de cette première partie de saison
avec je suis très fier de ce début de saison. J'espérais aucune médaille en Grand Prix. J'espérais juste pouvoir partir en compétition déjà. Donc avoir deux médailles d'argent en Grand Prix et de participer à la finale des Grands Prix. C'est être dans le top 6 mondial quasi 5 ans d'affilée. Donc je suis hyper fier. C'est une fierté. Ça me laisse la possibilité de rêver pour peut-être une potentielle médaille dans un an et demi. Donc je vais surfer sur ce bonheur, retourner à l'entraînement. Là, j'ai qu'une envie, c'est d'aller peaufiner mes programmes pour qu'ils soient les plus beaux possibles. Et voilà.
Oui, donc on va. Kevin Emoz, donc qui a terminé sixième donc de cette finale du Grand Prix. En plus, il était à la maison. Et puis on va écouter tout de suite la réaction des danseurs Lopareva Brissot, qui ont terminé sixième également de cette compétition.
Votre sentiment juste après cette danse libre?
Fatigué. Un petit peu fatigué, c'était un petit peu physique pour moi aujourd'hui, mais notre public français nous a bien soutenus. Donc on a fini dans bonne note, genre on a bien fini le programme.
Et vous Geoffrey, vos impressions?
Oui, c'était plus physique que hier, mais on est très content de ce qu'on a donné aujourd'hui. Donc c'est dans la direction qu'on veut aller.
Comment vous vous êtes senti pendant le programme?
Beaucoup supporté parce que oui. Le public était vraiment présent avec nous, donc c'est cool, on est content et ça nous pousse à continuer à travailler dur dans cette direction.
Parce qu'il y avait déjà eu ce Grand Prix de France à Angers où vous avez gagné, mais là c'était encore une toute autre affaire, une toute autre ambiance. Comment vous l'avez vécu? Quelles étaient peut-être un peu les différences? Parce que là on est encore dans un palier au-dessus, j'ai envie de dire.
Ah ben c'est sûr, il n'y a que les 6 meilleurs. Donc du coup, ça fait du monde. Et ça fait des performances qui sont très bonnes. Donc l'idée, c'est de travailler pour que de plus en plus, on se rapproche des top teams. Vu qu'on a gagné un Grand Prix, qu'on s'est sélectionné dans cette finale. Voilà, l'objectif, il est rempli maintenant. Il faut continuer à travailler pour aller grappiller une ou deux places dans le futur.
Et depuis la danse rythmique, comment vous avez vécu l'entre-deux, justement, avec ici à Grenoble, avec cet autre contexte?
Bon, on n'a pas eu énormément de temps. On a mangé, dormi, s'entraîné, voilà. Et c'était déjà la compète. Voilà. Donc ça va très vite. Donc on n'a pas eu trop le temps de penser. C'est ça qui est bien aussi. On n'a pas eu le temps de trop tergiverser.
Qu'est-ce qui t'a plu?
T'as plu.
Qu'est-ce qui t'a fait plaisir?
Le public, il m'a fait tellement plaisir avec son support énormément grand. Ça fait un grand plaisir, vraiment. C'est quelque chose.
Et sur la glace?
On est quand même bien patiné. C'était notre première finale. On avait fait deux programmes clean. Donc, j'ai fièvre de notre première. C'est un très bon début des séries finales dans notre carrière. Donc, ça, c'était une expérience. Il était très bon.
Parce qu'hier, tu disais que tu aimais la techno. Et est-ce que sur ce programme, il y a quelque chose que tu aimes en particulier?
Choreo Steph, bien sûr. C'est mon maman préférée dans ce programme.
Ah, j'ai bien aimé la fin qui a été mieux qu'arrangée.
Ouais.
Ah, ça passe mieux comme ça.
Ouais,
hein.
C'est sûr.
Voilà, tu peux nous en dire un peu plus sur ces jeunes interviewés là?
Oui, tout à fait. Ouais. Donc, Evgenia Lopareva et Geoffrey Brissot, qui sont la relève, justement, de Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron. Ils sont vraiment très, très prometteurs. Ils ont beaucoup progressé. Et en plus, ils ont trouvé leur style. Et ils ont deux programmes très intéressants. Une grande danse rythmique sur Boney M. Rasputin. Alors, je peux vous dire que ça a remis au goût du jour.
Absolument.
Et ils l'ont vraiment très bien patiné. Puis, ils ont vraiment un style. Hein. Et puis, un programme libre plus dark sur des extraits d'un groupe qui s'appelle BNF. Excusez-moi. Et qui est plus dark. Et c'est très intéressant. Ils ont deux programmes vraiment... Et beaucoup de progression, encore une fois. Ouais.
Et concernant Kevin Emmoz, hein, qu'on a un petit peu coupé avant la fin.
Oui, donc ses paroles, excusez-moi, on va revenir là-dessus. Bah, il disait que son entraîneur, donc Françoise Vonarme, il est aussi entraîné par Sylvia Fontana, qui est aux États-Unis. Donc, ses derniers mots, ça a été on le mérite. Hein. Elle lui a dit on le mérite, et donc on y va. Donc, ça, c'était ses derniers mots à la question que je lui ai posée.
Ouais.
Et puis, vous savez quoi, on a eu le grand plaisir de le rencontrer au lendemain du programme libre.
Et
on l'a interviewé en tête à tête. Et puis, on va écouter tout de suite cette interview de Kevin Emmoz.
Bonjour, Kevin Emmoz. Je suis ravie de vous interviewer. Ma question, c'était vous qui êtes reconnu comme un artiste dans le patinage artistique, quel rapport nourrissez-vous avec la compétition?
La compétition a été très dure pour moi pendant longtemps parce que j'ai toujours aimé ça, la compétition, être un peu le centre de l'attention au milieu de la glace. Mais en grandissant, c'était un peu un endroit où je me sentais pas du tout en sécurité parce que je me sentais un peu jugé, un peu regardé, et c'était très dur. Et c'est peut-être pour ça aussi que l'an dernier, ça a été très dur pour moi. Aujourd'hui, je prends ça comme une chance de pouvoir m'exprimer, de pouvoir raconter mon histoire et j'adore tellement patiner que toutes les chances que je peux avoir de patiner, je vais les saisir. Et c'est ça qui est beau dans le patinage, c'est un mélange entre la performance, la technique et l'autre côté avec l'art et la musique. C'est tellement beau, c'est un sport tellement complet que j'adore ça.
Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes sur la glace, quand vous vous exprimez, quand vous construisez vos programmes?
Quand je construis mes programmes, j'ai toujours besoin de raconter une histoire, peu importe l'histoire, qu'elle soit légère ou plus profonde. Par exemple, cette année, mon programme court, c'est un thème assez léger, mais il y a quelque chose qui se passe. Je veux raconter une fête, je veux qu'il se passe quelque chose. Et le programme libre, c'est un truc très personnel où je parle vraiment des émotions que j'ai au fond de moi. Et c'est ça que j'aime, c'est que je peux m'exprimer comme je veux sans avoir peur d'être jugé. Et c'est ça qui est beau, même si on est jugé pour avoir un score, hein, mais c'est un jugement différent et ça j'aime bien patiner, raconter mes émotions.
Et ces émotions, justement, comment vous les vivez sur la glace? Comment vous arrivez à les exprimer?
C'est dur, c'est très dur d'exprimer une émotion en mouvement, mais j'aime ça patiner, tourner, sauter. C'est un truc de taré d'être sur glace. J'aime ça comme un enfant et l'enfant intérieur que j'ai, il est heureux, quoi.
Et au tout début, qu'est-ce qui vous a attiré dans ce sport, justement?
Je sais pas, depuis tout petit, le patinage, j'en voyais pas beaucoup, du coup je trouvais ça un peu différent et atypique, et du coup ça m'a direct plu. Le côté d'être un peu sur de l'eau gelée, de bouger dessus, c'est un truc de zinzin, donc je trouve ça fun, moi.
Merci beaucoup, Kevin. Merci.
Alors, on va quand même rappeler, Vanessa, que Kevin Emmoz, il avait fait un burn-out quand même, hein.
Oui, tout à fait, Philippe. Et là, ça va beaucoup mieux. Hein. Ouais. Il est vraiment revenu. On sent qu'il a le plaisir de patiner. Ça, c'est une très bonne chose. Et évidemment, on lui souhaite de continuer sur cette voie. Il y aura les championnats de France cette semaine, les championnats d'Europe fin janvier. Et puis, je voulais rajouter un petit mot. Donc, tout à l'heure, le programme libre de Evgenia Lopareva et Geoffrey Brissot. La musique, c'est le groupe BFRND. Donc,
voilà,
c'était
sans aucun problème.
J'ai un petit peu bugué.
Mais c'est pas grave.
Et puis, on va écouter tout de suite une interview d'Anthony
Leroy, juge arbitre de la compétition,
ah oui, très intéressant,
qui va nous expliquer comment on juge en patinage artistique. Voilà.
Bonjour Anthony Leroy, vous êtes juge arbitre ici sur cette finale du Grand Prix. Vous pouvez-vous nous expliquer le système de jugement en patinage artistique ?
Alors, le système de jugement repose sur un système d'arbitrage vidéo, pour commencer. Depuis 2004, nous sommes dotés d'un écran avec la possibilité de revoir les séquences techniques réalisées par les patineurs. Vous avez deux équipes de travail qui sont complémentaires l'une et l'autre. La première équipe qui est composée de 3 personnes, un contrôleur technique, 2 spécialistes techniques, ce sont des professionnels. Le contrôleur technique, lui, est un super juge. Et qui a la responsabilité de superviser le travail réalisé par les deux professionnels. Ces trois personnes ont la responsabilité de reconnaître chaque élément technique qui est réalisé par les athlètes. Ils vont reconnaître l'élément, ils vont lui donner un niveau de difficulté, ils vont également reconnaître certaines erreurs, est-ce que le saut était entier, incomplet, est-ce que la pirouette était suffisamment assise ou allongée, est-ce que les pas étaient suffisamment en quart ou non. Et une fois qu'ils se sont mis d'accord sur la reconnaissance de l'élément technique, ils vont envoyer cette information au juge. Donc les juges, c'est la deuxième équipe, il y a 9 personnes. Au milieu de ces personnes, il y a un juge arbitre qui est le président du jury, il est chargé de la direction de l'épreuve. Et ces juges vont recevoir donc l'information transmise par le panel technique et ils vont devoir attribuer un bonus ou un malus sur chaque élément réalisé, en passant de moins 5 à plus 5, en passant par 0. Voilà. Et donc, ça, c'est la première partie du jugement technique. Et la deuxième partie, pour le jury, parce qu'ils ont une deuxième charge, ça va être d'évaluer la qualité, enfin, la présentation du programme. Et la présentation du programme, elle repose sur 3 grandes thématiques. La première thématique, c'est la composition, c'est donc la façon dont est dessiné le programme, c'est de la chorégraphie, on pourrait dire, le fil conducteur. Et puis ensuite, vous avez la présentation, c'est comment le programme va être interprété. Et on va parler d'engagement intellectuel, physique, émotionnel, comment la musicalité ressort à travers les mouvements du patineur. Et enfin, la troisième grande thématique, ça va être la technique de patinage, la vitesse, la pureté des quarts, l'équilibre, voilà. Donc ce travail est complémentaire entre les deux équipes et la somme totale des deux aspects, des deux visions, va vous donner donc la note individuelle pour chaque athlète.
Ma question, c'est quelle est la complexité de juger
La complexité de juger, c'est d'abord, ça va vite, ça va très vite. On doit juger quasiment en temps réel. Il faut que nous ayons des yeux affûtés parce qu'il y a parfois des patineurs qui ont une technique de patinage qui est un peu suspecte. Il y a des réceptions qui sont pas complètes. Donc ça, le panel technique a les outils pour nous aider à identifier et à préciser la réception des sauts, par exemple, ou la position des membres du corps sur les pirouettes. Donc ça, c'est complexe et heureusement, l'arbitrage vidéo nous apporte, grâce à la technologie, la possibilité de préciser notre jugement. Ce qui est complexe aussi, c'est parfois de nuancer l'erreur. Est-ce que la chute était vraiment lourde ou est-ce qu'elle était le saut était quand même bien réalisé mais il y a une chute, donc il faut essayer de trouver le bon milieu, le juste milieu en tenant compte des aspects positifs et aussi des aspects évidemment négatifs. Et enfin l'autre point, c'est parfois d'intégrer des dimensions qui ne sont pas forcément les nôtres, c'est-à-dire que il ne faut pas croire que le juge doit prendre ses valeurs pour des références. Il faut être ouvert sur toutes les musiques. Il faut être ouvert sur toutes les cultures pour être capable de recevoir le message et la conception du programme voulu par le patineur. Donc, il faut être très ouvert, très affûté et très précis. Il faut avoir un bon bagage aussi soi-même techniquement.
Et alors, le système de jugement évolue. Il y a des nouveautés, comme par exemple cette année, la saison dernière, l'autorisation du backflip qui jusque-là était une figure qui était interdite car dangereuse. Il y a eu aussi bien avant l'autorisation des musiques chantées, quel est votre regard là-dessus? Et aussi, comme je le disais tout à l'heure, mais il y a l'ISU qui s'est réuni pour réfléchir à la cotation des quintuples sauts. Voilà, quel est votre regard là-dessus?
L'histoire du patinage, elle remonte à plusieurs années, au XVIIIe siècle déjà. Donc les gens aimaient patiner sur la glace et ont commencé à créer des figures. Et parfois, certains d'entre eux ont donné leur nom à l'axel, à des sauts. Donc Axel Paulsell a donné son nom au saut Axel. Le Rydberger porte le nom également de son créateur. Vous avez une gamme d'à peu près 5-6 sauts, voilà. Et ces sauts, ils sont les mêmes depuis des années. Donc effectivement, ce qui va changer, ça va être la déclinaison de ces sauts en format simple, double, triple, quadruple, et donc bientôt quintuple, comme vous le soulignez, puisque l'ISU a déjà codifié et donné une valeur à ce qui va arriver dans le futur, c'est-à-dire des quintuples rotations. Ces quintuples rotations, elles sont possibles notamment grâce aux équipements, des nouveaux patins, des lames et aussi des techniques de saut qui se sont précisées à travers le temps. S'agissant de l'intégration de nouvelles figures un peu dangereuses, considérées comme dangereuses, comme le backflip par exemple, ou d'autres créations physiques, eh bien c'est nécessaire parce que si on se contente que des sauts que nous avons depuis une centaine d'années, on risque de lasser un peu le public. Donc en fait, il est important effectivement de nourrir, d'alimenter le sport avec de nouvelles figures, originales, inédites, et qui dans certains cas peuvent apparaître comme étant une signature du patineur. Hein, c'est-à-dire ce que le patineur va pouvoir apporter au patrimoine sportif, ce qu'il va pouvoir apporter d'original, de totalement inédit. Ça va nourrir notre sport.
Merci beaucoup, Anthony Leroy.
Voilà, effectivement, très intéressante hein, ces précisions d'un arbitre de patinage. Il y a tellement de controverses au niveau du jugement du patinage que c'était très important et très utile donc d'apporter ces précisions.
Alors Philippe, en fait le système là, c'est un nouveau système depuis 2004 qui est très codifié et donc il laisse pas de place justement à tout ça. Après, la seule question que vous pouvez vous demander, c'est est-ce que l'émotion elle est quantifiable? Voilà, parce qu'il y a le côté artistique, mais sinon sur la partie technique, comme je vous dis, c'est très codifié et donc ça laisse pas de place au dérapage, etc. Voilà.
Très bien. Merci Vanessa en tout cas pour cette interview. Alors, il y aura quand même un prolongement à travers des podcasts qui ont été donc ramenés et qu'on peut réécouter dans notre rubrique Hors les murs. Hein.
Alors, tout à fait. Ouais,
très intéressante, hein, notamment l'entrée sur la glace.
Voilà. Alors, il y a donc en effet une interview incroyable des coulisses du bord de glace. On a été visiter la zone Kiss&Cry. On a visité l'entrée des patineurs juste avant d'entrer sur la glace. Et puis également, comment on prépare la glace hein, pour une compétition. Donc ça, c'est à retrouver sur le site de Mon Paris FM dans le Hors les Murs. Mmh. Et puis également des réactions de l'équipe de France Junior, qui est donc la relève hein, pour les Alpes 2030 en quelque sorte. Et on a écouté leurs réactions après leurs différentes performances. Donc vous pouvez le retrouver dans la rubrique Hors les Murs sur le site. Je voulais rajouter quelque chose. Je voulais faire un petit prolongement. Donc cette semaine, il y aura les Championnat de France, fin janvier, les championnats d'Europe. Et puis, faire une petite transition aussi sur Gabriela Papadakis, qui a annoncé donc samedi qu'elle allait en février patiner avec une femme. Et donc, c'est aussi pour. Elle a déclaré, hein, parce que ça va permettre à ce sport, enfin au sport plutôt, parce que ce sport est ouvert, d'être plus inclusif. Voilà. Donc, ça, c'est très intéressant. Et puis, j'avais aussi des. Pour finir, tiens, vous m'avez parlé d'aller patiner, Philippe, tout à l'heure. Oui. Eh bien, figurez-vous que pendant les vacances de Noël, on va donner des petites idées à nos auditeurs. Oui. Au Grand Palais, vous pouvez aller patiner dans ce superbe cadre.
Pour faire le lien avec les Jeux, quoi.
Dans ce superbe cadre qui, en plus, a accueilli les Jeux Olympiques cet été. Et puis, vous avez également une piste de glace dans le 15e. Mmh. Ça, c'est voilà, pour des bonnes idées pour aller se dépenser et découvrir aussi le patinage. Et puis, juste un petit mot sur quelques expos à visiter là, pendant les vacances de Noël. belle baignade en Seine et puis nos jours heureux oui. à partir du 21 décembre. Voilà oui. pour les expos à voir qu'on ouais. vous recommande.
La maire de Paris en a parlé lors du dernier conseil d'administration de Paris 2024. Quand on vous avait dit qu'on vous avait gâté, qu'on avait joué les Pères Noël hein, à travers cette émission. Allez, la deuxième pause musicale, ensuite le journal Omnisport et le point foot avec notre ami Stéphane Dezenclos. Voilà, allez, avant d'avoir le point foot, bah le traditionnel journal Omnisport qui va commencer naturellement par la quatrième place de notre équipe féminine de hand.
Absolument, Philippe. On commence le journal des sports avec le classement final de l'Euro féminin de handball, tu l'as dit. Un peu d'amertume pour nos Bleus quand même, puisqu'elles se sont fait sortir en demi-finale par le Danemark 24-22.
Alors qu'elles étaient invaincues jusque-là. Hein.
C'est ça, ouais. Avant de s'incliner contre la Hongrie lors de la petite finale 25-24. Au final, c'est bien la Norvège qui remporte ce tournoi face au Danemark justement.
31-23. Dixième titre et troisième consécutivement.
Exactement, ouais. Donc la Norvège qui domine le sport. En Lidl Star League, donc on reste sur le handball, on a eu droit au choc... hier soir entre Nantes et le Paris Saint-Germain, les Nantais sont imposés 34-31 face aux Parisiens et chipent la première place au PSG en les surpassant la différence de but. Il y avait aussi le derby du Val-de-Marne entre Créteil et Ivry. Victoire de Créteil 27-23 sans trop de surprise. Au classement, Créteil est 12e avec 10 points à égalité avec Chambéry et Cesson-Rennes. Et Ivry est toujours dernier avec 3 points. On ouvre une grosse page sport divers, ça va faire plaisir à Vanessa, à Philippe, avec les résultats de la Coupe du Monde de biathlon à Hochfilzen, en Autriche. Chez les hommes, la France remporte l'épreuve et termine devant la Norvège et la Suède avec un temps de 1h23 et 4 secondes. Au classement général, les Français Émilien Jacquelin et Éric Perrault sont 3e et 4e derrière les Norvégiens Bo Jones et Lagret Sturla. Chez les femmes, les Françaises ne terminent que 2e à 1 minute 5 des Allemandes, mais 26 secondes devant les Suédoises. Au classement général, Lou Jean Monod est 2e, derrière l'Allemande Franziska Preuss, et Julia Simon est 9e. En ski alpin à Beaver Creek, grosse performance de Romane Miradoli, la Française, qui termine l'épreuve à la 8e place. Et c'est l'Italienne Sofia Goggia qui finit première. Au classement général, Camille Rast, la Suisse est leader. Et il faut attendre la 31e place pour voir enfin une Française, Camille Brèche, et Romane Miradoli est 33e.
Ouais.
Chez les hommes, au Val d'Isère.
Val d'Isère.
Sans surprise, les Norvégiens Christoffersen et McGrath qui terminent les deux premiers à l'épreuve. Victor Muffat-Jandet, le Français, finit à la 16e place. Au classement général, les deux Norvégiens sont toujours leaders et le premier Français sur la liste, c'est Clément Noël, 6e. On le rappelle, Clément Noël qui avait remporté les deux premiers slaloms, ce qu'il avait placé en pole position. Depuis, il a été un peu blessé et il a dû passer son tour. En natation, on avait les championnats du monde de petit bassin qui se déroulaient à Budapest la semaine dernière. Donc, en l'absence de Léon Marchand, la délégation française rentre quand même avec 5 podiums.
Oui, mais pas d'or.
La star de cette semaine, c'est bien évidemment l'américaine Gretchen Walsh, qui a elle-même fait tomber 11 records du monde et permet aux États-Unis de remporter largement la compétition avec un total de 39 médailles, dont 18 médailles d'or. La Russie termine 2e, le Canada 3e, la Chine 4e, la Suisse 5e, l'Australie 6e, la Hongrie pays hôte 7e et notre équipe de France ne termine que 15e avec donc 3 médailles d'argent et 2 de bronze, donc pas d'or comme tu l'as dit. On fait un petit point rapide sur le Vendée Globe maintenant. Charlie Dalin est toujours leader et semble bien parti pour remporter cette édition. Johan Richomme est toujours deuxième lui aussi, tout comme Sébastien Simon qui est troisième. Thomas Ruyant est quatrième et Nicolas Lanvin est cinquième. Actuellement, les voiliers dépassent un par un la Nouvelle-Zélande et se dirigent vers le point Nemo dans l'océan Pacifique. On ouvre la page rugby avec les résultats de la deuxième journée de Champions Cup. Week-end mitigé pour nos clubs français. 5 victoires et 3 défaites. Le Stade français s'incline à domicile contre Saracens 28-17. Le Stade Rochelais s'impose largement contre Bristol 35-7.
Deuxième défaite pour le Stade
Deuxième
français.
Défaite, absolument. Ouais. Clermont perd contre Leinster 15-7. Bordeaux-Bègles gagne à l'extérieur contre Ulster 40-19. Le Racing 92 perd contre les Sharks 29-7. Castres Olympique gagne contre Munster 16-14. Toulon gagne de justesse au terme d'un gros match contre Glasgow 30-29. Et le Stade Toulousain gagne contre Exeter 64-21. Au classement dans le groupe 1 rapidement, le Stade Toulousain et Bordeaux-Bègles se partagent la première place. Dans le groupe 2, le Stade Rochelais est leader et l'ASM Clermont 3e. Dans le groupe 3, Castres Olympique est 4e et le Stade français, dernier avec 0 points. Et dans le groupe 4, Toulon est leader et le Racing 5e. En basket, on en parlait un peu en off. Résultat de la 12e journée de championnat et défaite du Paris Basket face au Mans 84-76.
C'est pas une bonne semaine pour
eux. Qui vient clôturer justement une semaine compliquée après sa défaite contre Lyon-Villeurbanne en Euroleague 98-93. Et puis Nanterre qui fait plaisir un peu au club francilien, qui gagne son match du week-end contre Gravelines-Dunkerque 89-83 après prolongation. Au classement, Cholet est leader, le Paris Basket 2e, Lyon-Villeurbanne 3e et Monaco 4e. Avec sa victoire, Nanterre 92 remonte à la 10e sixième place. Plus tôt dans la semaine, donc j'en ai parlé un petit peu, il y avait l'Euroleague et donc choc français entre le Paris Basket et Lyon-Villeurbanne remporté par les Lyonnais. Et dans le même temps, Monaco a remporté un match très important contre Fenerbahçe, 99-69. Les Monégasques montent à la deuxième place du classement derrière le Paris Basket, toujours leader. Lyon-Villeurbanne est 15e. Et enfin, Philippe, on termine ce journal des sports, le dernier de l'année,
oui,
avec le volleyball et le Paris Volley qui termine sur une bonne note avec une victoire face à 7-3-2. Le Plessis Robinson, quant à lui, s'incline lourdement à domicile 3-0 contre Tours. Au classement, le Plessis est 13e et bon dernier avec 7 points, tandis que cette victoire permet à Paris de remonter à la 10e place du classement. Chez les femmes, le Valois Paris perd son match du week-end 3-1 face à Béziers. Le club des Hauts-de-Seine est 4e derrière Nantes, leader, Mulhouse et Nancy.
Très bien, merci Alexandre, hein, comme pour ce journal Omnisport, très complet comme chaque semaine. Bonsoir Stéphane Dezenclos du quotidien.
Bonsoir Philippe, ça va, tout le monde va bien?
Bah ça va, ça va. Alors Stéphane, on va commenter l'abondante actu foot de cette semaine. D'abord, avec la réélection de Philippe Diallo pour 4 ans.
Ouais, voilà, bah, sauf que
ouais, c'est logique.
Ça a été un peu chaud quand même, quoi. Ça n'a pas été du 90-10, quoi. Donc, ouais, bah, voilà, on est reparti sur les mêmes. Bah, de toute façon, je pense que le vieux dinosaure qui est la Fédération française de foot ne sera pas bougé comme ça, quoi.
Alors, on va aussi rappeler pour la petite histoire, l'anecdote, hein, parce qu'on a vu l'occasion de l'interviewer donc, pendant les Jeux paralympiques. Gaël Rivière, qui était le capitaine de cette équipe de France Estifoot, il est devenu président de la Fédération française handisport. Voilà, sinon, tous les autres présidents, pratiquement, ont été réélus des fédérations, que ce soit le rugby, le handball ou le seront, comme par exemple le vélo. On va parler un petit peu aussi des tirages au sort cette semaine des prochaines Coupes du Monde, hein, puisque la France, on sait. Devra attendre donc son match contre la Croatie pour savoir dans quel groupe elle sera en 2026. Si elle bat la Croatie, ce sera l'Ukraine, l'Islande ou l'Azerbaïdjan. Et si elle est battue, bah, ça sera la République tchèque, le Monténégro, les îles Féroé et Gibraltar. Dans tous les cas, ce sont des groupes très faciles, Stéphane. Hein,
ouais, tout à fait. Bah oui, que ça soit. Ouais. Et en plus. Ils sont déjà au moins sûrs de au cas où même ils termineraient, il y aura un problème, ils seraient sûrs de jouer les barrages par rapport à leur position en Ligue des Nations. Donc, de toute façon, pour les qualifications pour la Coupe du Monde, pour des bons clubs européens, les meilleurs clubs européens, équipes nations européennes, c'est jamais compliqué, quoi.
Ouais, oui. Et puis on va rappeler donc, on sait qu'en 2030, eh bien la Coupe du Monde aura lieu dans 6 pays, hein, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay sur les premiers matchs. Et sinon, bah le restant des matchs, ce sera surtout l'Espagne, le Portugal et le Maroc. Et qu'en 2034, eh bien on aura une Coupe du Monde en hiver, comme il y a 2 ans, ça sera puisque la Coupe du Monde aura lieu en Arabie Saoudite, hein, comme ce qu'on avait vécu sur mon Paris FM avec cette Coupe du Monde au Qatar en 2022.
Ouais, tout à fait, voilà, ouais, voilà, on y retourne. Bah, on va encore avoir le droit à tous les débats sur les droits de l'homme, sur plein de choses. Ça va être, ça va encore être pimenté, quoi. Bon, quand bien sûr, tout le monde va se réveiller au dernier moment, mais bon, comme pour le Qatar, quoi.
Ouais. Allez, on parle du terrain maintenant. C'était la 6e journée de Ligue des Champions cette semaine. 3 victoires, 1 défaite, hein, nette victoire du Paris Saint-Germain, j'allais dire enfin, contre Strasbourg, donc Salzbourg 3-0, victoire de Brest, hein, qui continue sur la bonne dynamique devant Eindhoven 1-0, et victoire de Lille, un peu plus difficile contre le Sturm Graz 3-2. Par contre, Monaco n'a pas existé, Arsenal 3-0. Si ça devait s'arrêter, donc, eh bien, à l'issue de cette 6e journée, Brest 7e serait d'office qualifié pour les 8e, ainsi que Lille 8e, hein, puisqu'ils ont 13 points. Et Monaco jouerait les barrages, puisque Monaco est 16e avec 5 autres équipes à 10 points, et le Paris Saint-Germain serait éliminé puisqu'ils sont 25e avec 7 points avec Stuttgart. Mais il reste quand même 2 journées, Stéphane.
Ah, il reste 2 journées, et c'est vrai que comme il n'y a pas eu de. Comme c'est la première fois qu'a lieu la compétition, il n'y a quasiment aucun repère. Hein.
Oui, oui.
On parle de 10 points pour aller, ou peut-être un peu plus pour aller en barrage. On parle de 15 points pour aller dans le top 8. Donc on sait pas exactement. Hein. Je pense qu'on se rapproche à chaque fois. Ça sera peut-être un peu plus que 10 points. Tout ça, c'est des concours de circonstances. Mais comme on en parlait la semaine dernière, quoi, on en a parlé, mais je ne crois pas que c'était à l'antenne. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même, dans les faits, c'est quand même les Lillois qui, pour moi, sont les mieux placés pour accéder au, directement. au top 8, mais ça va quand même être très, très compliqué. Ouais. Ça va être très compliqué parce que il faudra, de toute façon, quoi qu'il arrive, quoi, à moins que Lille gagne à Liverpool, parce que c'est possible, hein, quand on a vu ce qu'a fait cette équipe, tout est possible, mais il faudra battre, s'il faut battre Feyenoord, la dernière journée, Feyenoord, c'est une équipe qui, par exemple, n'a perdu d'ailleurs, à deux victoires et un nul à l'extérieur. Mmh. Les victoires, je ne me rappelle plus où, mais un nul, c'était à City, Manchester City, et deux victoires. Je crois qu'il y en a une à Salzbourg, et je ne sais plus où est l'autre, mais l'autre, c'est sur peut-être le Sporting Portugais. Non, Leipzig, je crois. Bref. Mmh. Donc, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Pareil pour le Paris Saint-Germain. Maintenant, on va avancer journée par journée, parce que Monaco, par exemple, si ça tourne mal, Monaco n'est pas du tout sûr non plus. Quoi. Si 10 points ne suffisent pas, comme je dis, on parle de 10,2, 10,3 points. Donc, comme c'est pas possible.
Enfin, il reste deux matchs quand même. Hein.
Oui, il reste deux.
Il reste deux journées. Donc, ils doivent pouvoir jouer les barrages, même 16e.
Hein. Ouais, mais il faut voir. Faut voir. Mmh. Par exemple, imaginons que, juste pour Monaco, par exemple, ils reçoivent Aston Villa à Louis II. Imaginons qu'ils perdent 2-0 ou 2 buts d'écart contre Aston Villa, ce qui est tout à fait possible. Aston Villa doit être quatrième du classement, et que le Paris Saint-Germain batte Manchester 1-0, ben le PSG passe devant Monaco, par exemple.
Oui. Bon, il serait barragiste, hein, dans le meilleur des cas. Allez, on va continuer avec la Ligue Europa. Là, il n'y aura probablement pas de problème pour Lyon, hein, qui a battu Francfort 3-2.
Pas de problème pour Nice non plus. Oui,
Nice battu donc par les Belges de l'Union Saint-Gilloise 2-1. Donc Nice 35e, bah, les carottes sont cuites, hein, on le sait depuis longtemps. 135e avec Riga à seulement 2 points. Lyon-Francfort 4e, donc on peut penser que les Lyonnais avec 13 points, eux joueront les barrages directement de la Ligue européenne.
Ouais. Les barrages c'est sûr, mais Lyon peut quand même espérer mieux. Hein.
Bien sûr.
De toute façon, Lyon si normalement, quand on regarde déjà les adversaires en début de compétition, on se dit que Lyon, ça serait quand même un peu un scandale qui joue pas le top 8, qui soit pas dans le top 8. Et quand on voit le déroulement en plus des opérations avec des clubs qui étaient au départ parmi les favoris, qui finalement sont un peu largués, je pense à la Roma par exemple, ça serait quand même un peu grave que Lyon n'arrive pas à terminer dans le top 8. Hein. Mmh. Donc leur dernier, en plus, je crois que j'ai pas le programme là sous les yeux, mais leur dernier gros match était justement Francfort, quoi, qui était deuxième en Bundesliga, qui avait jamais perdu, et donc c'était le gros point. Ils ont fait le gros match là, et après ils ont plus de gros adversaires non plus. Ils doivent faire deux victoires. Il se fait qu'ils auraient 19 points. Non, je sais pas combien d'autres points Lyon.
Ils ont 13 points.
Bon. Ouais, ils ont 13 points là, donc ils auraient 19 points. S'ils n'ont pas au moins 16, 10, au minimum 17 points, ça sera quand même une contre-performance.
Hein. Ouais. Bon, c'est Stéphane, on a 3 minutes, hein, pour faire les championnats. Donc, Ligue 1, donc on va quand même rappeler les résultats principaux. Hein. D'abord, la victoire du Paris Saint-Germain devant Lyon 3-1, le nul de Marseille à domicile devant Lille 1-1, et puis le 0-0 donc, de Monaco à Reims. Donc, le PSG qui reprend une petite marche, 7 petits points d'avance sur Marseille et Monaco, 37 contre 30.
Hein, on peut dire que c'est aussi un peu grave peut-être pour le championnat. On disait que avant cette journée, tout le monde voyait Lyon un peu accroché quand même au PSG, puis l'OM bat Lille et puis Monaco gagne à Reims, et puis finalement il n'y a rien qui se passe. Je voudrais quand même, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de temps, mais
pousser
un coup de gueule quand même.
Vite.
C'est plus l'époque des coups de gueule, mais de la programmation de cette 15e journée, qui a été vraiment du n'importe quoi, quoi. C'est hallucinant, quoi. Lille a joué à Marseille moins de 3 jours. Après son match contre Sungars, ils jouaient mercredi, ils jouaient à Marseille à 17h, ils jouaient mercredi à 21h, donc moins de 3 jours après, ils jouaient. Monaco a joué à Reims trois jours, eux, c'était 21h-21h. Trois jours après, un déplacement à Arsenal. Donc, je ne sais pas à quelle heure ils sont rentrés, ou dans la nuit ou le lendemain matin. En tout cas, ils sont rentrés et après, ils ont été joués. Alors, c'était tout à fait possible, quoi, le entre guillemets choc de 17h le samedi sur Bein aurait très bien pu être le match, par exemple, Brest-Nantes. Brest avait joué en Ligue des Champions le mardi, et puis Brest-Nantes, c'est un derby, c'est Brest, hein, c'est quand même les héros de cette Ligue des Champions. Je pense que c'était une affiche qui était très intéressante. Ouais. On pouvait mettre, déplacer les autres matchs, après on trouvait un autre, je sais pas, mais en tout cas, bref, c'est vraiment n'importe quoi, quoi. C'est n'importe quoi.
Bon, c'est bien d'avoir poussé ce coup de gueule, simplement pour rappeler qu'en Ligue 2, donc, le Paris FC a été battu à Lorient 2-0. Le Paris FC donc qui perd la première place. Hein. C'est Lorient en tête avec 33 points devant le Paris FC 31. En national, le Paris Atlético a concédé le nul 1-1. Alors que donc Versailles a été battu 1-0. Le Paris Atlético toujours donc 15e avec 14 points. Juste devant Villefranche en Beaujolais 13 points et Châteauroux. Et puis que les féminines, et ben Lyon continue son petit bonhomme de chemin. Voilà. Je suis désolé, Stéphane. Merci. En tout cas, rendez-vous en début de saison.
Bonne soirée à tout le monde.
Voilà, merci en tout cas.
Et bonne fête.
Voilà, et bonne fête de fin d'année. On se retrouve le 6 janvier. Voilà.
Bonne fête de fin d'année.
Salut Stéphane. Juste 30 secondes pour conclure. Vous avez des activités de prévues ?
Oui, alors le week-end, on parlait matériel, donc c'est Noël. Donc le week-end prochain, on a un week-end matériel chez Parcat à Champigny. Et puis après, on va fermer un peu le practice pour les fêtes de fin d'année. Oui. Et un dernier message, c'est si vous voulez découvrir, venez. Il y a toutes les informations sur le site internet paris-golf.fr et on vous accueillera et on vous fera découvrir notre sport avec beaucoup de passion.
Très bien, merci en tout cas.
Merci beaucoup pour votre invitation.
D'avoir été le dernier invité de cette année 2024. On reviendra le 6 janvier. Hein. Voilà. Merci à Jason, merci à Léonard pour l'ensemble de leur œuvre tout au long de cette saison. Ces émissions, vous pouvez toutes les retrouver en podcast, hein, y compris même concernant celles qui étaient sur les Jeux Olympiques et Paralympiques et sur donc, la journée Demain le sport à Radio France. Belle soirée, à très bientôt, ravi d'avoir été avec vous dans un instant au bout du foot et toute l'équipe qui va prolonger l'actu. Belle soirée.
Belle soirée.
fait